Bonjour tout le monde. Vous m'avez demandé qu'il y ait un cours sur les Béné Noirs. Un cours sur les Béné Noirs. Bon. Bon, une chose qui est bien connue, c'est qu'il y a dans la Torah ce qu'on appelle un message universel. Il y a des raisons à cela. Par exemple, si vous faites un calcul très simple, l'humanité est composée de 99,8% de goïm. Et qu'il y a 0,02% de juifs. Donc on peut se demander, qu'est-ce que le bon Dieu il veut à ces 99,8% de goïm? Il a certainement quelque chose à leur dire. Donc ça tombe sous le sens que selon la Torah, il y a quelque chose à transmettre à l'humanité. Il y a cependant un goï, non pas justement un goï, un juif, du nom de Henri Bergson. Vous avez peut-être entendu parler. Philosophe d'origine juive en France, fin du 19e siècle et début du 20e siècle, qui a affirmé entre autres choses, c'était un philosophe très profond hein, pour tout vous dire, mais il a quand même pu dire, personne n'est à l'abri des erreurs, donc il a dit quelques absurdités, entre autres, que le christianisme est supérieur au judaïsme. Et ce, pour une raison très simple, c'est que le judaïsme parle d'un Dieu qui ne se préoccupe que de son peuple, tandis que le christianisme a brisé ses barrières et qu'il parle d'un Dieu qui s'intéresse à l'ensemble de l'humanité. N'est-ce pas? C'est ce qu'affirme Henri Bergson. C'est extrêmement surprenant qu'un homme de haute culture comme Bergson ait pu dire une telle ânerie. Étant donné que je pense que c'est exactement le contraire. Alors que pour le christianisme, il n'y a de salut que dans l'Église, et quand on est en dehors de l'Église, on est damné éternellement. Par contre, la Torah, elle, nous enseigne que jamais on a demandé aux goïms de se convertir en masse, mais bien au contraire. Par exemple, le prophète Élisha donne des instructions à un général araméen, ennemi d'Israël, et lui dit comment servir Dieu. Et il y a également un prophète, je crois, Jonas, ce qui ne dit absolument pas qu'il était d'origine chinoise, hein, mais qui est parti comme un pigeon. Oui. Encore les racistes là, ouais. Qui est parti en pigeon voyageur à Ninive, d'ailleurs c'est ce que veut dire le mot Yona, est parti à Ninive, envoyé par Dieu pour leur faire faire Teshuvah. De même, on voit que le prophète Isaïe, Yeshayahu, lance des prophéties un peu partout à différentes nations, chez lesquelles il est envoyé. Par exemple, il est envoyé en Afrique noire. Il en tient une couche quand il part justement dans le pays de Couche envoyé par Dieu pour prophétiser là-bas. De même, si on va plus loin, à l'époque des Tanaïm, il y a Hillel qui nous dit qu'il faut aimer les créatures et les rapprocher de la Torah. Ce qui veut donc dire que le message de la Torah est destiné à ceux qui en sont loin. Sans parler de Rabbi Akiva, qui est bien connu pour avoir dit Chaviv Adam, Shenivra Betzelem Elohim. L'homme est chéri parce que créé à l'image de Dieu. Il continue en disant, et Israël est chéri parce qu'il a reçu la Torah et qu'il est appelé fils du Créateur. Donc, vous voyez que tout au long de l'histoire officielle du judaïsme, aussi bien à l'époque prophétique qu'à l'époque non prophétique, il y a un message universel. Donc qu'est-ce qui fait que Bergson a pu dire une telle ânerie? Il y a comme, et je parle de quelqu'un qui était très cultivé, qui savait, qui connaissait ses sources. N'est-ce pas? Eh bien, ça vient de quelque chose de très simple, c'est qu'il avait raison dans la réalité. C'est-à-dire, pendant des siècles, y compris au temps de Bergson, les Juifs ne se sont pas occupés de cette partie fondamentale de la Torah. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est que les Juifs étaient occupés à survivre. Au temps des persécutions, la chose la plus importante pour le Juif, c'était de vivre pour arriver, non pas jusqu'à demain, mais pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc, en situation de persécution, qu'on est en train de se sauver la peau, on n'a pas le temps de s'occuper des autres. Deuxièmement, au temps de l'émancipation, quand les persécutions ont officiellement cessé, les Juifs étaient préoccupés par autre chose, à disparaître dans le décor, gêner le moins possible, une assimilation parfois totale, parfois partielle, mais en tout cas, ne pas déranger. Donc, dans ces deux situations-là, les Juifs ne pouvaient pas réaliser, accomplir leur rôle. Une fois les enfants d'Israël revenus sur leur terre et ayant créé leur État, quel est leur devoir, s'il y en a, par rapport à l'humanité? Alors, il y a également des habitudes frileuses qui viennent de longs siècles de désintéressement. Là, il y a un argument qui est, bon, c'est bien, il faut s'en occuper des goïms, mais d'abord commençons par les juifs. Une fois qu'on aura fini de s'occuper des juifs, alors on trouvera un peu de temps pour lancer quelques miettes du côté des goïms. D'accord? Vous connaissez cet argument? Un argument qu'on entend souvent. Le problème, c'est que ça voudrait dire que l'enseignement est une forme de tzedaka. Dans la tzedaka, il y a une règle. D'ailleurs que les goyim ont repris, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ce que dit la halakha, aniye ayircha kodmim le'aniye iracheret. Les pauvres de ta ville viennent avant les pauvres d'une autre ville. Oui?
J'avais dit quand les Juifs ont construit un État, alors on devrait faire ça, mais tous les autres, ils disent que l'État n'est pas encore construit parce que pas construit comme il faut. Donc on ne peut pas encore s'en occuper.
Pas une seconde. On va tenir compte de cette question très bientôt. Je voudrais finir d'abord avec la première phrase. Et donc, si c'est une question de tzedaka, alors évidemment, il y a ce qu'on appelle des cercles de proximité. On s'occupe d'abord du proche et après du loin. Mais répandre la connaissance de Dieu dans le monde n'est pas un acte de tzedaka, il est dans l'essence même d'Israël. Quand Dieu dit à Abraham, par toi seront bénies toutes les nations de la terre, c'est dit au point de départ de l'élection. Ce n'est pas quelque chose qui arrive plus tard. L'universel serait rajouté plus tard. Non, la Torah nous parle de l'apparition d'Israël sur la terre comme étant, dès le départ, à finalité universelle. Et Bédiavad, après coup, comme replié sur lui-même. Maintenant, pour ce qui est de la question géniale de David Altar, qui est, enfin, mais l'État n'est pas encore vraiment construit. La réponse est que les goïms, eux, s'en fichent pas mal de savoir si tu as une kippa sur la tête ou pas. Pour les goïms, l'israélien, c'est le juif des nations. Et c'est en tant que tel qu'il est conçu dans le subconscient collectif des gens. Quand je donne des conférences à des candidats à être diplomates du ministère des Affaires étrangères israélien, ce que j'explique aux jeunes diplomates, tout frémoulus, tout contents d'aller au Kenya pour boire un peu de whisky, je leur explique que ce qui est important, ce n'est pas ce que eux pensent du judaïsme. Ce qui est important, c'est ce que les goïms pensent d'eux. Et il faut savoir que pour les goïms, notre identité n'est pas quelque chose de neutre dans leur monde. Pour une raison très simple, c'est que nous constituons, nous autres les Juifs, un scandale métaphysique. Du fait même de notre existence, il faut en être conscient. Comme disait une fois un radical de gauche anti-chrétien à Manitou, je ne crois pas en toutes les bêtises de l'Église, mais pourquoi vous l'avez crucifié? D'accord? C'est-à-dire que il y a l'humanité, d'ailleurs, j'ai expliqué ça à un groupe de catholiques venus en Israël, je leur ai dit, vous savez, l'Europe laïque est beaucoup plus chrétienne qu'avant. Pour une raison très simple, quand quelqu'un est consciemment chrétien, il est chrétien autant qu'il le veut. Mais quand il refuse d'être chrétien, alors c'est son inconscient qui travaille, et donc il est très profondément chrétien. Précisément parce qu'il refuse le dogme. Et effectivement, on voit que le monde occidental, par exemple, réagit par rapport aux Juifs et à l'État d'Israël, exactement comme la chrétienté réagit au judaïsme. Et pour une raison très simple, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Eh bien, ce qui s'est passé au XXe siècle, les Juifs ont réalisé un événement biblique en pleine modernité. C'est quelque chose d'absolument incroyable. La Bible, on pensait que ça appartenait au passé. Et puis un beau jour, en plein XXe siècle, éclairé, se produit un événement biblique. Les enfants d'Israël reviennent sur leur terre, ils reviennent au mont du Temple et à Jérusalem. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est horrible. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que peut-être c'est la Bible qui lit l'histoire comme il faut. Deuxièmement, et ça c'est encore pire, peut-être que c'est la manière qu'ont les Juifs de la lire qui est la bonne. Et alors ça crée un malaise terrible. Et donc, il va y avoir toute une stratégie inconsciente chez les nations pour culpabiliser Israël et prouver que c'est le pire des États du monde, pour pouvoir se dégager de la responsabilité d'écouter Israël. Il y a aussi autre chose. Il y a une réaction sourde, en sourdine chez les goïms, qui est, bon, vous autres et les juifs, vous avez fait beaucoup de balagan, vous êtes revenus, vous avez bouleversé nos habitudes de pensée. Bon, d'accord. C'est donc que vous avez quelque chose à nous dire. Il y avait un goï du nom de Jean-Jacques Rousseau. Vous avez probablement entendu parler. Dans un de ses livres, L'Émile, il dit, en Sorbonne, la Sorbonne était à l'époque une université religieuse, il est une évidence pour tout le monde que les prophéties d'Isaïe parlent de Jésus. Chez les rabbins d'Amsterdam, il va de soi que ça n'a rien à voir. Je pense que je ne comprendrai les Juifs que lorsqu'ils auront un État avec des universités et des académies dans lesquelles ils pourront s'exprimer sans crainte, et alors nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. Effectivement, ben c'est arrivé. Alors les goïms disent, bon, alors vous avez quelque chose à nous dire, qu'est-ce que vous dites? Oh ben on n'a rien à dire. Hein. Nous sommes des Européens comme vous. Hein. Nous avons des homosexuels comme chez vous. Et puis nous avons une technologie de pointe, et nous avons inventé les tomates cherry et le Disconki. Hein. À part ça, nous avons une ville géniale, Tel Aviv, dans laquelle vous pouvez passer du temps vachement chouette. Et puis, à part ça, nous avons une ville touristique, archéologique, assez intéressante. Jérusalem, ça vaudrait la peine d'aller voir. C'est très cosmopolite et c'est sympa, quoi. Voilà. Et alors, les goïms disent, ah non, alors ça va pas. Si c'est ça que vous avez à nous dire, donc vous êtes des menteurs. Donc, c'est pas à vous. Rendez ces terres aux Palestiniens. Vous êtes des voleurs. Alors l'Israélien, tout bas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je leur ai dit que j'étais comme eux. Et puis vous avez également le juif religieux qui lui se dit, oh là là, un État, non mais ça ne va pas, on n'est pas des goïms nous, on va à la yeshiva, c'est tout ce qu'on a à faire. D'accord. Et Akadosh Baruch Hu dans tout ça, qu'est-ce qu'il pense? Ah ben lui, il a un projet. D'accord. Il a un projet. Alors, où il est ce projet? Ben, ce projet, il apparaît dans la Guémara, dans Baba Kama, page 38a. Comme vous n'avez pas la photocopie, je vais lire quelques lignes et expliquer. Hein? Surtout parce que je sais que vous pouvez vérifier après si je n'ai pas falsifié. Donc j'ai tout intérêt à être fidèle au texte. N'est-ce pas? Là, il y a un verset de Habakkuk. Bah oui, Habakkuk, c'est pas n'importe qui, c'était la femme du Rav Tzvi Yehuda. Mais c'est pas du tout... Oui. Elle s'appelait Chava, oui, Chava Léa. Chava. Mais c'est la pure vérité, simplement ça ne s'écrit pas pareil, et à part ça, ça n'a rien à voir. Bon. Amad Vayemoded Eretz. Il s'est levé, il a mesuré la terre. Ra'a, il a vu. Vayater Goyim, il délia les nations. C'est une des manières de traduire le mot Vayater. Il a délié les nations. Et alors Rabbi Matana demande, Ma'ra'a, qu'est-ce qu'il a vu? On dit voilà, Dieu, il a mesuré la terre, il a vu, alors il a délié les nations. Qu'est-ce qu'il a vu? Mara. Ra'a sheva mitzvot shenitzavu alehem bnei noar velo kiyumum. Il a vu les sept commandements que les fils de Noé avaient acceptés et qu'ils n'ont pas accomplis. Amad, il s'est levé. Vehetiran lahem, il les a dispensés. Il a délié, c'est-à-dire qu'il a dispensé les nations des sept commandements. C'est-à-dire qu'ils auraient le droit de tuer, de violer, de voler. Ils auraient le droit. La Guémara dit, mais c'est pas possible. Itgure itgar, alors ils ont gagné. Imken matzinu choten iskar. Et donc on a trouvé un pêcheur salarié. Ça veut dire que le pêcheur, étant donné qu'il n'a pas voulu accomplir les mitzvot, alors il a gagné, qu'il en est dispensé. Amar, mar, bere, derabana. Et donc mar, bere, derabana répond, non, c'est pas ça que ça veut dire. L'omar, shafilu mekaimim otam, c'est-à-dire que même lorsqu'ils les accomplissent, en mekablim aleim sachar, ils n'en sont pas récompensés. C'est-à-dire qu'ils ont le devoir d'accomplir les mitzvot, mais ils n'en sont pas récompensés. Bizarre. Vélo, comment non? Vehatania, alors qu'on a enseigné, Rabbi Meir Omer, que Rabbi Meir disait, Minayin shafilu nochri v'osek batorah shukekohen gadol. D'où savons-nous que même un non-juif qui étudie la Torah est comme le grand prêtre? Talmud Lomar, ainsi qu'il est dit, Asher yaase otam ha'adam v'chay ba'em, que l'homme accomplira pour en vivre. Kohanim levim v'israelim lo ne'emar. Il n'est pas dit des Kohanim, des Lévim ou des Israélites. Et là, Adam, il est dit l'homme. Halamadeta, ce qui veut dire, Shafilu nochriv osek batorah, reukekon gadol, que même le non-juif qui s'occupe de la Torah est comme un grand prêtre. Donc comment est-ce que tu dis qu'ils ne sont pas récompensés? Ils sont comme le grand prêtre. Amré, on a répondu. En mekablim, donc c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni qu'ils ne sont pas récompensés, ni qu'ils sont totalement récompensés. Alors comment ils sont? Amré, en mekablim aleem sachar kimtsuve ve'ose. C'est qu'ils ne sont pas récompensés comme quelqu'un qui a le devoir d'accomplir et qui accomplit. Et là, kemi sheno mitsuve ve'ose. Mais seulement comme quelqu'un qui n'a pas été ordonné, mais qui fait quand même. De Amar Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina disait, Gadol ametsuve ve'ose, Mimichéno Metsuvé Verosé. Il est plus grand celui qui a le devoir et qui fait que celui qui n'a pas le devoir et qui fait. Bon, c'est extrêmement pas clair. Ce que dit la Guémara, c'est que à partir d'un certain moment de l'histoire, les goyims ont cessé d'être récompensés de l'accomplissement des sept mitzvot, pas totalement non récompensés, mais ils sont à moitié récompensés comme quelqu'un qui fait une mitzvah qu'il n'a pas le devoir de faire. Bizarre cette histoire. Alors ils les font quand même les mitzvot ou ils les font pas? Oui. Oui.
Ils sont
punis? Ah oui, bien sûr. Le sahar, ça implique également le onesh. En fait, ça veut dire quelque chose. La Guémara fait probablement allusion à un phénomène qui s'est produit chez les goyim à un moment de l'histoire. C'est quand les goyim ont voulu accepter les mitzvot sans que ce soit des mitzvot. Bah oui. Bah, il y a eu un moment, je ne sais pas si vous savez, il y a eu une communauté qu'on appelait les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens vivaient, la première communauté qu'on a appelée de ce terme-là, vivait à Antioche, qui est une ville qui est aujourd'hui en Turquie, à la frontière syrienne. Et il y avait tout un débat chez eux, est-ce que les mitzvot sont abolis ou pas? Et finalement, le chef de l'église naissante, Paul, a décrété que les mitzvot étaient abolis. Il n'y a plus de mitzvot. Alors ils ont commencé à vivre une vie de débauche. Puisqu'il n'y a pas de mitzvot, on fait ce qu'on veut. Et alors Paul leur a écrit une lettre dans laquelle il leur dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Ça ne va pas à la tête? Alors, ils lui ont répondu, mais c'est toi qui nous as dit que tout est permis puisque la loi est abolie. Il leur a répondu, tout est permis, mais tout n'est pas convenable. C'est-à-dire, vous devez continuer à accomplir les mitzvot, mais non pas en tant que mitzvah, mais en tant que morale. Pourquoi? Parce que pour les chrétiens, l'idée qu'un comportement soit une mitzvah, c'est très grave. Parce que le jour où je transgresse, je suis condamné. C'est pour ça que les premiers chrétiens ont dit que leur fondateur les a libérés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire les mitzvot sont une malédiction. Parce que plus il y a de mitzvot, plus il y a de possibilités de transgression, donc je ne peux pas échapper à l'enfer. Tandis que si je supprime les mitzvot, alors ça continue à être un comportement louable, il faut faire ces mitzvot, mais la relation envers Dieu ne passe pas par les mitzvot, mais passe par la foi. Ce qui est plus facile. D'accord? Et donc, c'est exactement ça que dit la Guémara. Ils ne veulent pas des mitzvot, donc ils en sont dispensés. Mais ils veulent continuer à les accomplir. Mais pas pour que ce soit la relation envers Dieu. Simplement parce que c'est moral. Il y a une morale chrétienne, ça existe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité a échoué quelque part, qu'elle avait le moyen d'entrer en rapport direct avec le Créateur, et qu'elle y a renoncé. Mais, il y a un moyen de redevenir Metsuvé Verosé. Comment faut-il le faire? Ben, il faut simplement pour cela accepter les commandements Noachides. Comment les accepter? Oui? Non. Non. Autre chose. Abraham, Yitzhak et Yaakov ne accomplissaient toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Donc il n'y avait pas du temps des avos de distinction entre le Metsuvé Verosé et le Mishéno Metsuvé Verosé. Donc leur niveau chez les avos est supérieur à celui des enfants d'Israël. Chez les enfants d'Israël, il y a la mitzvah. Et donc il y a celui qui accomplit la mitzvah, parce qu'il en a le devoir, il y a celui qui n'a pas le devoir et qui accomplit quand même, et alors on doit décider qu'est-ce qui est plus important. Chez les avot, c'est antérieur à ce débat. Ils sont à un niveau où c'est la nature même de leur être qui est d'accomplir les mitzvot. D'accord? Donc c'est pas la même chose. C'est une troisième catégorie. Bon, alors, comment fait-on pour redevenir sous le coup des Mitsubé Beroussé? Bien, il y a pour cela le Rambam. Rambam dans Ilchot Melachim. Chapitre 8. Au verset Yud. Moshe Rabbeinu, Al-Halakha Yud. Moshe Rabbeinu, ce qui veut dire Moïse notre maître. Lo inchi la Torah va mitzvot et la le Israël. N'a donné en héritage la Torah et les commandements qu'à Israël. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit. Morasha Kehilat Yaakov. Elle est en héritage pour l'assemblée de Jacob. Et pour tous ceux qui veulent se convertir du reste des nations. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Kachem Kager, comme vous, comme le converti. Aval Michel Oratza, mais celui qui ne veut pas, En Kofinoto, les Kabel Torah ou Mitzvot, on ne l'astreint pas à accepter la Torah et les Mitzvot. Vechen tziva Moshe Rabbeinu ipi agvura, de même Moshe, notre maître, a ordonné de la bouche de la puissance, la kouf et kol bae haolam, de contraindre tous les hommes de la terre, les kabel mitzvot shenitztavu bnei noach, d'accepter les commandements qui ont été donnés au fils de Noé. Vechol michelo yekabel yahareg. Celui qui n'accepte pas sera tué. Ve'amekabel otam est celui qui les accepte. Ouanikra ger toshav bechol makom. C'est celui qu'on appelle toujours l'étranger résident. Ve'tzarich lekabel bifnei shlosha chaverim. Et il doit les accepter en présence de trois rabbins. C'est-à-dire, c'est comme une forme de conversion, une demi-conversion. À partir du moment où il y a eu acception officielle des sept mitzvot devant un quorum de 3 maîtres, alors il redevient Metsuvé Verosé. Vous avez compris le topo? Ça veut dire une sorte de bédine. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une sorte de mission pour l'humanité. C'est comme si dans la Torah, vous aviez 2 religions. Une religion destinée à la nation prêtre, c'est Israël, c'est nous. Mamlechet Kohanim, vous êtes un royaume de prêtres, Vegoy Kadosh et une nation sainte. Et il y a également une autre religion qui fait partie de la Torah, qui est destinée au Goïm, qu'on appelle classiquement en français le noachisme. D'accord? Et Kol, oui. D'accepter les sept mitzvot.
Et s'il ne les fait pas, il peut les refaire plus tard, il le fasse une fois et après sa vie. Même s'il arrête pendant 2 ans et puis il doit refaire.
Non. Kol Amekabel, là je lis ici maintenant la halakha numéro 11. Là c'était la halakha 10. Je passe ici à la halakha 11. Kol Amekabel Sheva mitzvot. Tout celui qui accepte les 7 commandements. Venizahar la asotam et fait attention de les accomplir. Vous avez remarqué que le Rambam ici emploie 2 expressions. Mekabel et Nizahar. Mekabel, ça veut dire celui qui a fait ses déclarations officielles. Il accepte devant 3 chachamim de faire les 7 mitzvot. Mais à part ça, non seulement il accepte, mais il les fait, il les accomplit. Areze mechaside ou mota olam. C'est un homme vertueux parmi les nations de ce monde. C'est un chassid. Ve'yesh lo chelek la olam haba. Il a part au monde à venir. Jusque là vous suivez? Ve'hu, et ceci à condition, she'yekabel otam ve'yaase otam, qu'il les accepte et qu'il les accomplisse, Parce que Dieu a ordonné dans la Torah de les faire. Et que nous avons été mis au courant par Moïse notre maître que les fils de Noé en ont reçu l'ordre auparavant. Il doit accepter que c'est révélé par la Torah. Avalimasa mipne chadat. Mais s'il l'a fait par son intelligence, c'est-à-dire son intelligence l'a amené à accomplir les 7 commandements. Enze Gertoshav. Alors ce n'est pas un Gertoshav, un étranger résident. Veno Mihaside Omota Olam. Il n'est pas parmi les sages des nations. Non, parmi les vertueux des nations.
Qu'est-ce que c'est vertu?
Le vertu.
Le vertu.
Il a la vertu. Chassid.
Chassid.
Chassid. Il n'est pas parmi les chassidés au Mota Olam. Ella Mechachmeem. Mais il est seulement un de leurs sages. D'accord? Donc vous avez le chassid et vous avez le chacham. Oui? Maevdel, ça veut dire en français, c'est quoi la différence? Oui?
C'est quoi la différence entre le cas où il le fait mais on connaît, le cas où il le fait mais on connaît pas?
Alors, le Rambam nous dit, s'il est chassid, alors il est également Gertoshav, il a part au monde à venir. Mais s'il le fait par intelligence, alors il n'est pas Gertoshav, mais c'est un sage.
Ça c'est défié à la fin, mais qu'est-ce qui a amené le Rambam à dire c'est à la fin?
D'où est-ce qu'il a tiré ça? Et c'est un débat. D'abord, avant de rentrer dans la source du Rambam, c'est pour, qu'est-ce qu'il en est du Olam Haba de ce monsieur? Il a ou il n'a pas? Il n'a pas. Alors il devrait dire En lo chelek olam haba. S'il a, il devrait dire Yesh lo chelek olam haba. Le Rambam n'a dit ni l'un ni l'autre. Bizarre quand même. Ce qui a, j'en sais rien, est-ce que c'est une réponse possible? Ça a amené énormément de spéculations chez les rabbins. Qu'est-ce qu'il voulait dire le Rambam? Oui?
Mais c'est sur la même échelle, Chassid et Chacham, parce que. Enfin, il
qui est supérieur?
Non. Est-ce que c'est comparable? Parce que par exemple, le Sila Ticharim, il ne fait pas la même chose. Mais Chassid, il ne parle pas de Chacham, je crois. Donc c'est...
Et alors?
Alors, pour savoir si c'est comparable, est-ce que ça parle d'un nivellement ou c'est encore autre chose?
J'aimerais bien savoir. Toutes les questions que vous posez sont des très bonnes questions. Elles ont été traitées par différents rabbins. Mais d'où est-ce que le Rambam a tiré ça? Alors, c'est difficile à savoir. Il y a ici, par exemple, dans le Kesef Mishneh, il dit que le Rambam a dit Nir Eli Sherabenu Omerkach Misvara de Nafshe Unechochahi. Il me semble que notre maître dise ça par son opinion personnelle qui est droite. C'est pas évident. Il y avait en Allemagne un homme très sage du nom de Moïse Mendelssohn. Quand il a lu ce texte du Kesef Mishneh, il a envoyé une lettre à un des grands rabbins de l'Allemagne de l'époque, Rabbi Yaakov de Emden. Il lui a dit, comment ça voudrait dire que la majorité de l'humanité n'aurait pas part au Olam Haba? Ça l'a beaucoup choqué. Il y avait également un juif à Amsterdam du nom de Spinoza, quand il a lu le Rambam, il a dit, vous voyez bien que les rabbins ne donnent pas la béatitude aux nations. Ils leur refusent le Olam Haba s'ils n'ont pas accepter que ça vient de la Torah, des 7 commandements, même s'ils sont vertueux. Donc vous voyez que ça a déjà fait beaucoup mousser. Le Rav Kook.
Ah.
Le Rav Kook, dans Igrot Reiha, dit que ça n'a absolument rien à voir, ils n'ont rien compris ces gens-là. Ni Rabbi Yaakov, ni Moïse Mendelssohn, ni Spinoza. Il dit... Le Rambam, quand il parle du Olam Haba, parle d'un degré assez médiocre. Olam Haba, c'est médiocre. Il dit pourquoi? Parce que même les pécheurs d'Israël ont part au Olam Haba. N'est-ce pas? Kol Israël, tout le monde en Israël a part au Olam Haba. Donc c'est médiocre. Par contre, le sage, Il est supérieur au chassid, dit le Rav Kook. Et donc, son appartenance à l'immortalité de l'âme ne peut pas s'exprimer avec le terme « olam haba ». Il doit être exprimé dans d'autres termes dont la Torah n'a pas parlé. Et que chaque philosophie explique à sa manière. C'est-à-dire qu'il y aurait différentes trajectoires spirituelles. Il y a celle de celui qui est fidèle à la Torah, juif ou chassid ou mot haolam, et donc il a le olam haba. Et puis un philosophe ou un grand sage parmi les nations, eh bien il aurait sa manière à lui d'accéder à l'immortalité de l'âme. Ça n'a rien à voir donc avec le terme olam haba. C'est l'interprétation du Rav Kook, qui a un avantage. Les interprétations du Rav Kook ont toujours un avantage. Elles sont bonnes. D'accord ? Bon. Ça, c'est pour ce qui est de la... vous avez donc deux formes différentes de Ben Noir. Vous avez celui qui accepte par tradition rabbinique, et donc il passe devant le tribunal, tandis que le Racham, il s'en fiche pas mal. Il est en dehors du koum, mais en dehors de la religion, si vous voulez. Oui ?
Où est-ce que c'est marqué que les Juifs doivent aller les chercher, ces gens-là, pour en faire des Ben Noirs ? Peut-être c'est à eux de venir, simplement, de rien. Nous, on n'est pas censé faire quelque chose pour eux.
Dans la Halakha Yud que nous avons lu tout à l'heure, Vechen Siva Moshe Rabbeinu Mipi Agvura, et de même Moshe Rabbeinu a ordonné de la voix de Dieu, la Kouf et Kol Baya Olam le Kabel Mitzvot Shenitztavu Bnei Noach, d'astreindre les nations à accomplir les sept lois données par Noé.
C'est Moshe.
Quoi ? Non, Moshe nous a dit que nous avons le devoir de contraindre tous les membres de l'humanité d'accepter les mitzvot qui ont été donnés au fils de Noé. Donc c'est écrit en toutes lettres. J'étais d'ailleurs à un congrès rabbinique des rabbins d'Europe, conseil rabbinique européen, et j'ai parlé de ça. Et alors il y a quelqu'un qui a dit, où est-ce que c'est écrit qu'il faut diffuser chez les nations? Alors il y avait là-bas un Lubavitch qui a dit, c'est écrit dans le Rambam. Grand silence dans la salle. Oui? On peut être à la fois Ben Noir et Chacham. On peut être à la fois et Chassid et Chacham. Il n'y a pas de contradiction. Un juif aussi a le droit d'être Chacham. Le Chassid, je veux dire. Oui. Ah oui, de ce point de vue-là, effectivement, il y a un avantage. Il dit, pour ça que le Rav Kook dit qu'également, on peut dire que le terme Olam Haba désigne l'avantage donné par la Torah. Il y a ça aussi. D'accord ? Bon, alors, il y a ici... il y aurait beaucoup de débats à faire. Il y a toute une législation des sept mitzvot. Et ça correspond tout à fait, justement, à un besoin qui se fait sentir aujourd'hui parmi les nations. La preuve, c'est qu'il y a, spontanément, sans qu'on s'adresse à eux, il y a des communautés entières chez les goïms qui demandent à être des Bnei Noach et qui s'adressent, entre autres, à une organisation que j'ai fondée, qui s'appelle Berit Olam, qui s'occupe de diffuser le noachisme. D'accord ?
C'est-à-dire quoi, diffuser juste à la
route ? Non, alors c'est tout un débat, c'est tout un programme. On ne peut pas limiter la vie spirituelle des gens à sept commandements, surtout que six d'entre eux sont négatifs. Ne pas être idolâtre, ne pas blasphémer, ne pas tuer, ne pas pratiquer l'inceste, ne pas voler, ne pas manger de la chair d'un animal vivant. Tout ça est un peu négatif. Et la septième, c'est avoir des tribunaux pour juger ceux qui transgressent ça. Alors, c'est pas sérieux. Évidemment, ce n'est qu'un point de départ. C'est-à-dire, le billet d'entrée pour écouter la parole d'Israël, il faut d'abord accepter les Sheva Mitzvot. Mais c'est évidemment un minimum. Ça ne peut pas être un maximum. Oui ? Quoi ?
C'est pas comme les Asaret Adibro, c'est-à-dire on dit que...
Les principes.
Là,
oui, mais dans les Aseret Adibrot, il y en a trois qui sont assez et sept qui sont l'Ota assez. Tandis que là, c'est entièrement du négatif. Donc, il y a quelque chose qui manque. D'accord ? Oui.
C'est quoi leur rôle, alors, dans le monde ?
Ça veut dire que chaque nation à sa manière à elle, de devenir une nation sainte. Je voudrais ici citer un verset de Zécharia. Est-ce qu'il y a un Tanakh ici? Il y en a un? Un seul suffit. Merci. Dans le livre de Zécharia, au chapitre Bet, au verset Tetvav, je crois. Vénilvou, Goyim, Rabim et Lachem, Bayomahou. De nombreuses nations, ici le mot Goyim signifie nation dans le Tanakh, de nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour. Vehayu li les âmes et seront pour moi un peuple. C'est-à-dire pour l'instant, nous sommes le seul peuple dont Dieu dit c'est mon peuple. Et il viendra un temps où de nombreuses nations s'associeront et seront pour moi peuple. Et nous alors? Non, rien à craindre. Veshachanti betocher. Et je résiderai en toi. En toi, en Jérusalem. Venachal Hashem et Yehuda chelko al admat haKodesh. Et Dieu héritera de sa part, qui est Juda, sur la terre sainte. Uvachar od Birushalayim. Il choisira à nouveau Jérusalem. Il y aura une deuxième élection. Has kol basar mipenei Hashem, et toute chair se taira face à Dieu, qui n'est or mimeon kocho, car il s'est éveillé du lieu de sa sainte résidence. D'accord ? Donc il y a un projet qui concerne l'égoïm, non pas en tant qu'individu, mais en tant que nation. Pour l'instant, l'égoïm ne vivent pas ça en tant que nation. Mais il y a des individus et des communautés qui s'intéressent.
Vous avez des chiffres à me dire ? On en a où ?
Disons que j'évalue entre 20 et 30 000 goyims qui se considèrent directement comme des béné noirs à part entière.
Ils sont sous votre association ?
Non, pas tous, mais enfin une grande partie. Il y a les Lubavitch aussi s'occupent un peu de ça, etc. Mais il y a un intérêt énorme pour le judaïsme chez les goyim aujourd'hui, de manière obsessionnelle pratiquement, aussi bien pour condamner Israël que pour sympathiser. Mais ce n'est pas indifférent. Il y a un goy du Dalai Lama. Vous connaissez le Dalai Lama ? Hein ? C'est le chef des bouddhistes. D'ailleurs, c'est un dieu chez eux. Un dieu avec des lunettes, mais enfin un dieu quand même. Et le Dalai Lama a rencontré Manitou. Et il a demandé à Manitou, mais quel est votre secret pour tenir le coup dans la galoute? Parce que nous autres, les Tibétains, on part en exil, alors que vous revenez. Et puis à part ça, qu'est-ce que vous savez de l'âme humaine? Et Manitou lui répond, pourquoi est-ce que vous vous adressez à nous, grand précieux, alors que nous sommes un tout petit peuple? Réponse du Dalai Lama, si vous dites des choses pareilles, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. D'accord ? Pourquoi je vous amène précisément le Dalai Lama ? Parce qu'il est en dehors de la sphère chrétienne ou islamique. Il vient d'ailleurs. Mais il comprend que la lumière vient d'Israël. Et donc, ça commence, effectivement. Maintenant, il y a ici quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'il y a maintenant une opposition au noachisme. Des articles sont écrits, en général par des chrétiens, pour attaquer le noachisme, ce qui est une très bonne chose, ce qui veut dire que ça commence à exister. D'accord ? Oui ? Un peu bizarre ? Il y a toujours des gens bizarres. Mais par exemple, il y a une communauté aux Philippines de 1000 béné noirs, avec 9 synagogues, entre guillemets, à eux, et qui, comme aux Philippines, on n'a pas le droit d'avoir une activité religieuse sans être inscrit comme un culte officiel, alors ils se sont fait inscrire comme un culte officiel, QCHU, c'est-à-dire Kehilat Hasidei HaUmot, c'est une religion officielle aux Philippines. D'accord ? Oui ?
Qu'est-ce que ça change dans leur vie
concrètement ? Ça change beaucoup de choses, parce que ils sont intéressés à faire des prières, ils sont intéressés à faire des fêtes. Ils ont d'ailleurs une fête, une fois par an, que je leur ai instituée, le 27 Cheshvan. Le 27 Cheshvan, c'est la fête des nations. Non, ce n'est pas le déluge. C'est la fin du déluge, c'est le jour où Noach est sorti de la Teva et qu'il a reçu des Sheva Mitzvot. Donc pour eux, c'est un jour de fête.
Hein ?
Non, ils ne font pas le Hallel, mais par exemple, ils font le Hallel à Rosh Chodesh, ça oui, par exemple, oui, ça les intéresse. D'ailleurs, j'ai reçu une question de la communauté que nous avons dans le sud de l'Inde, dans l'Andhra Pradesh, ils m'ont demandé, mais enfin, dans votre Sidour, il n'y a pas écrit si on fait... Ils ont cru qu'il fallait faire le Hallel à Rosh Chodesh trois fois, à Shacharit, Mitra et Arvi. Alors, j'ai expliqué que non, oui. Mais enfin, disons qu'il y a des gens de très haute culture aussi qui font partie de tout ça. Normaux, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens normaux. Oui. Oui. Oui, mais attention, c'est souvent des chrétiens. Oui, alors, il y a des chrétiens qui adoptent une partie des mitzvot. Et ils demandent à être reconnus, entre autres par moi, comme des béné noirs. Ce que je leur refuse, d'ailleurs. Ça les choque beaucoup. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Non. Ils peuvent faire, disons, choisir dans le supermarché de l'étalage, sur les étalages du supermarché des mitzvot, ils prennent ce qui leur convient. Non, je suis très sérieux. C'est-à-dire, s'il y a un goy qui a passé donc ce processus et qui veut rajouter une mitzvah, il pense que c'est bon pour son élévation spirituelle, il a le droit de le faire.
Même Shabbat.
Même Shabbat.
Et c'est pour les Noirs,
au fond.
Hein ?
Non.
C'est
non. Non, pas forcément. Il judaïse, c'est pas du tout la même chose.
Hein ? Ça devient pas un sous-juif ?
Non, justement pas. Quand j'ai demandé au chef de la communauté noachide de Rotterdam, il y a quand même 150 familles là-bas, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne te convertis pas au judaïsme ? Parce que je suis hollandais. Et je lui demandais, et si on dit que tu es un sous-juif, il dit, ceux que ça dérange n'ont qu'à se convertir. D'accord ? C'est-à-dire, l'appartenance à la sainteté de l'extérieur, c'est quelque chose qui, pour nous qui sommes dans l'intérieur, nous est difficile à concevoir. Mais chez eux, ça passe tout à fait, sans problème. Oui ?
Alors, moi, c'est, ils doivent le donner à Israël ?
Non, pas forcément. Non, disons que ce sont des choses qu'ils doivent établir eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a différence de sensibilité selon chacun. Par exemple, à quel âge ils sont bar mitzvah ? À partir de quel âge on est tenu d'accomplir les mitzvot quand on est bête noire ? Alors, cette question m'a été posée donc, par différentes communautés. Aux Canadiens, je leur ai répondu à 17 ans. Et aux Philippines, je leur ai répondu à 12 ans. Pourquoi ? Parce que dans le cas aux Philippines, à 12 ans, on commence déjà à pourvoir aux besoins de la famille. Tandis qu'au Canada, à 17 ans, on a à peine, on s'est tout juste mâché un chewing-gum, mais ça ne va pas tellement plus loin. D'accord ?
En fait, c'est très relié à leur pays. En fait.
Exactement, à leur culture.
La culture.
Oui.
C'est ça, vous avez dit chaque peuple a sa façon d'être. C'est-à-dire chaque mémoire, selon son pays, il va avoir un culte différent ?
Probablement. Alors, nous avons donc des séfarades, des ashkénazes, des chassidim, des mitnagdim et tout le reste. D'accord ? Effectivement, on voit ces différentes sensibilités chez eux.
Comment vous construisez ça ?
Disons que ça se fait en collaboration avec eux. C'est eux qui doivent, disons, amener des propositions. Ils doivent recevoir un label toranique qui dit ça va, ça va pas. D'accord ?
Et aujourd'hui, au niveau d'Israël, il y a qui y a parmi qui s'occupe de ça ? Et à part les rabbins ?
Il y a encore d'autres personnes, il y a des rabbins un peu partout, pas seulement en Israël d'ailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé à intéresser à cela, hein, la Rabbanout Arachit, et également le gouvernement israélien. D'accord? C'est-à-dire que il y a, mon intention, c'est que ça devienne une affaire ministérielle et pas simplement une initiative privée de tel ou tel groupe. Oui.
Comment on peut expliquer qu'ils ont un supermarché de Nisvot? Parce que Nisvot, qu'on l'a fait ou qu'on l'a fait pas, qu'on la reconnaît ou qu'on la reconnaît pas, elle existe toujours en potentiel. Son action, elle aura toujours un influence dans la réalité.
Oui, bien sûr. Et alors?
Comment ça se fait qu'il y a un supermarché? Parce que les Nisvot ne le font pas.
Non, mais c'est le problème, qu'est-ce qu'il accepte? Par exemple, d'après le Magen Avraham et le Mishnah Brura, dans le Biur Halacha sur Or HaChaim 304, si un goy, au moment d'accepter les Sheva Mitzvot, accepte encore d'autres mitzvot, par exemple le Shabbat, il est tenu de les faire en tant que mitzvah. D'accord? Est-ce qu'il doit accomplir le même Shabbat que nous? Pas forcément. Ça dépend ce qu'il aura accepté. Oui?
Il dirait que vous fixez au minoir par rapport à la mitzvah, tout ça. C'est un peu. C'est une initiative ou non? C'est parce que c'est décrit très clairement dans la.
Il y a une controverse à ce propos entre le Keli Chemda et le Rav Kook. Rabbi Damir Dan Plotsky de Slutsk, qui était un contemporain du Rav Kook, dit que leur halachot sont exactement les mêmes que celles de la Torah. Et le Rav Kook n'est pas d'accord, il dit que ça dépend de leur sage. Il amène des preuves. C'est dans le livre Etz Hadar sur les Etrogim que le Rav Kook en parle. D'accord? Il y a un ouvrage que je suis en train d'écrire là-dessus, dans lequel j'amène les sources de ce que je dis. Je ne dis pas n'importe quoi simplement parce que par caprice. Oui?
Pourquoi leur lien avec Israël?
Hein?
Aucun.
Oh, ils ont rien. Il y a d'ailleurs des blés noirs en Israël, par exemple, avant la dernière Shemitah. Vous savez que à chaque Shemitah, la Rabbanout vend les terres à un goy pour pouvoir être dispensé de la Shemitah. Il y a un argument contre ça, c'est qu'il est interdit de vendre des terres à des non-juifs en Eretz Israël. Mais si c'est un ger toshav, on a le droit de lui vendre. Alors, le grand rabbin d'Israël m'a fait savoir qu'il cherchait un ger toshav pour pouvoir lui vendre, pour ne pas avoir ce problème du lot echonem. Alors je lui ai envoyé un ben noir, que je connais de Ramat Gan, et il l'a amené devant le Beddin suprême d'Israël, le Beddin Agadol, et il lui a dit, nous te déclarons ger toshav. Et ils lui ont vendu les terres. Quels moussards ils prennent dans leur tefila? Disons comme ça, ils ont un sidour qui leur permet de suivre la prière avec les juifs. Mais c'est très différent d'une autre, malgré tout. Ils ne peuvent pas dire nos ancêtres et à voter nous. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas demander à revenir à Jérusalem, ce n'est pas leur pays. Il y a des choses de ce genre. Donc il faut adapter ça à leurs besoins. C'est écrit, ça existe. Le sidour existe. Il existe en français, en anglais, en russe et en espagnol. C'est moi. Hein? Il y a toujours eu des goyim qui faisaient les tefilas. Par exemple, dans le Shulchan Aruch, il est écrit en toutes lettres que si un goy fait une bracha, il faut répondre amen. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Oui.
Oui.
On ne dit pas le bnei noir, on dit le ben noir.
Qui va prendre sur lui ben noir, le fait d'être un ben noir, ou il y a une filiation parentale, c'est-à-dire que.
Est-ce que ça passe ça dépend. S'il y a une communauté, alors il y a filiation. S'il n'y a pas communauté, c'est un truc individuel, alors c'est individuel. Par exemple, nous avons le cas d'un village entier en Ukraine, où là-bas ils ont décidé d'être ben noir, et ils ont toutes les chumrot du monde. Ils ne boivent même pas du lait des goyim. Donc leur propre lait. Oui.
Au niveau du Beddin, vous avez dit qu'ils devaient passer devant trois rabbins,
oui,
et s'engager.
Oui.
Et pourquoi, puisqu'ils ont l'obligation de monter, d'avoir des bateliers,
oui, ils n'en ont pas.
Et pourquoi ils ne seraient pas autonomes et que ce soit eux-mêmes qui...
Ah oui, bon, il y a cette opinion aussi. Il y a certains qui le pensent, effectivement, parmi les poskim. Bon, ça se discute, il y a beaucoup de détails, mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails maintenant. Simplement, c'était pour vous donner un petit goût de cette chose-là. Maintenant, les Israéliens... hébréophones m'attendent pour leur cours, donc je ne peux pas continuer cette. Non.